Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture avec ce grand sourire qu'on entend ici à distance. On commence ce journal, Hélène, malheureusement, non pas par un sourire, mais par la disparition du chanteur Alan Merrill.
Et oui, à qui l'on doit ce tube ? Et cette chanson, elle nous a toujours donné le sourire, Philippe.
Tellement.
Il avait coécrit ce titre, I Love Rock'n'Roll, en 1975, avec le guitariste Jake Hooker, chanson devenue culte en 1981 avec Joan Jett, que vous venez d'entendre. Alan Merrill est décédé du coronavirus, il avait 69 ans. C'est sa fille qui l'a annoncé sur Facebook. Elle a notamment écrit ces mots: s'il y a une chose que l'on peut apprendre de cela, et je vous en supplie, c'est de prendre la chose au sérieux. Alan Merrill avait commencé sa carrière à New York avec le groupe The Arrows.
Musée fermé en raison du coronavirus, tableau dérobé.
Et oui Philippe, et ça s'est passé dans un musée aux Pays-Bas, le tableau de Vincent Van Gogh, le jardin du presbytère de Nenen au printemps, peint en 1884, a été volé, annonce du directeur de l'établissement. L'effraction a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. La porte d'entrée vitrée du musée a été forcée. L'œuvre avait été prêtée par un musée au nord des Pays-Bas.
Dis donc, un type qui se barre tout seul à la caméra de surveillance avec un tableau dans les mains, il ne va pas être dur à trouver. Un élan de solidarité du côté des costumiers d'Hollywood.
Hollywood est toujours là et certains ont même trouvé le moyen de continuer leur métier. C'est le cas donc des costumiers. Nombreuses associations et plusieurs syndicats ont décidé de coudre, grâce à un kit, des masques pour le personnel hospitalier. Ils ont pu en envoyer 500 déjà dans les différents hôpitaux américains et ça va évoluer. Ils ont tous réuni leurs forces. Ils sont allés sur internet pour trouver des modèles. Certains ont demandé l'avis de médecins et infirmiers sur ce qu'il fallait faire exactement. Les costumiers ont chacun le matériel nécessaire pour fabriquer 24 masques de protection.
Retour en France à présent, à Lyon, où un homme a décidé de prendre soin de ses voisins.
Et il s'appelle Ludovic Deschamps. Il est menuisier, mais surtout cinéphile. Cet homme a décidé de projeter dans une cour entourée de 5 immeubles, après 20h, un court-métrage sur une façade pour que tous les voisins puissent en profiter.
Bien.
C'est génial.
Ouais.
Et en plus, c'est tous les soirs. Alors, ils ont eu le droit déjà au grand classique de Disney. Il a même inventé, Philippe, le nom de ce nouveau métier qu'il pratique désormais, projectionniste d'immeubles. C'est beau ?
C'est magnifique. Ça me fait penser au film Cinéma Paradiso, dans un tout autre genre. Un genre de classement que j'adore maintenant, Hélène. La plateforme Spotify a dévoilé les musiques qui dominent pendant le confinement.
Et attention, c'est très clair, ce sont les titres reposants, moins énergiques, qui sont à la mode, comme celui-ci par exemple. Voilà, donc musique moins dansante.
J'aime bien ce son, c'est qui ça Hélène ?
Tranquille, c'est Love Feelings.
D'accord.
Alors, les playlists ont également changé. Spotify affirme voir une hausse des compilations sur le thème de la cuisine et des tâches ménagères.
Non.
Et si les podcasts d'information sont en hausse, mais surtout, il y a un titre qui fait la différence avec une hausse de 135%. Il est signé The Police. Il s'appelle Don't Stand So Close To Me, ce qui signifie ne reste pas si près de moi. C'est dans l'actu. Voilà, donc la chanson la plus écoutée en ce moment, c'est celle-ci, Philippe. Ne reste pas si près de moi.
Mais
quand même.
J'adore, vous savez, c'est une chanson un peu terrible, parce que ça raconte l'histoire d'un prof dont une élève est tombée amoureuse. Et puis on termine avec une nouvelle chanson signée Michael Stipe, qui était l'ancien chanteur du groupe REM.
Une chanson écrite en confinement, elle s'appelle, beaucoup d'anglais ce matin, No Time for Love Like Now, pas mal.
Bien, écoutez. Bien.
No time for prison. No time for arguments. No time for love like now. There's no time in the bottle. No time in the in between. No time for love like now.
Partagé sur les réseaux sociaux, il précise qu'il s'agit d'une maquette, d'une démo même. Le son n'est pas top car il provient de son ordinateur. En revanche, selon lui, la mélodie a du potentiel. Elle sortira donc peut-être. Affaire à suivre.
Et puis on reconnaît la voix, c'est juste magnifique. C'est dingue, le talent de ce type-là. Merci beaucoup Hélène Manarino, à demain.
À demain Philippe.
Nous, on va rester dans la musique. Dans un instant, on va recevoir le chanteur Ben, qui veut plus qu'on l'appelle l'oncle Sol, donc Ben tout court. Mais avant ça, on va écouter un titre de son nouvel album. Le titre, c'est All My Life. Il n'est pas tout seul, il est avec IAM.
J'avais pas grand chose à offrir, pris entre le café et l'ennui, je filais droit vers le pire. Yeah. Elle m'a dit, toi je te vois venir, tu vas pas tarder à flétrir, faut que tu t'envoles vite. Ici les portes sont verrouillées, avec moi tu seras libre d'écrire une histoire digne de celle qu'on lit dans les livres. De minuit à minuit, sous le soleil ou la pluie, je te promets chaque jour un verre de cette joie qui rend libre. Oui, oublie les diamants, les saphirs, ce qu'elle veut c'est mes tripes. Bonsoir ma soeur, elle sort chez moi, y'a un truc électrique. Donc je valide le deal et j'entre dans l'arène. Et depuis je n'ai jamais quitté la catégorie
qu'elle. Elle est entrée en mes jours, leurs goûts ont changé. Je vise vers l'avenir et dis merci au passé. Pourtant j'ai dû quand même enfumer de au passage. Des idiots à qui la vie n'a pas appris le respect. Dommage, tcha, sa chevelure danse dans le vent. Comme les crânes de mes bougres bougent dans le van, marquant les dents, imaginant les phrases. La force de l'encre alors que ne voit que le talent dans les gants. Yeah.
Before she knew me, yeah. All my life sucked like you never know. And the dreams that I got, hopping to starve in the wind so far. She's everything that I need. Let me come past that gate and I'll never go. She'd be my melody and heartbeat. I just want you to come.
Yeah, elle a donné des ailes à mon dos. Et il me perd en extra pour mon bro. Puis elle m'a dit chérie c'est ça être libre. Si t'as fait le monde coûtera alors à ton gros du téléfly en survêtant velours. Elle chante les mots de Maya Angelou. Yeah. Elle vit partout autour du globe. Pour lui faire la courbe j'ai martelé tous les hoods et remonté le Nil en flou.
J'ai chassé les caves, effacé mes traces, honoré les braves, ouais. Elle m'a tenu la main, blotti en son sein, j'ai pu apaiser mon âme.
Elle est cette mise polyglotte, sur des écrans dégoulinants de soliloques. Pris dans sa pomme, le petit caillou ville que j'étais. Elle m'a tellement aimé qu'elle m'a changé en solide rock, ouais.
IAM, c'est toute ma vie. Et justement, c'était Ben avec IAM, All My Life.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Ben.
Bonjour.
Quand on vous a découvert en 2009, vous aviez un pseudonyme après votre diminutif. Vous étiez Ben, l'oncle Sol. Et pour souvenir, ça sonnait comme ça. Sortez là votre quatrième album, Addicted to You. Mais avant qu'on parle de l'album, pour en parler, pourquoi vous retirez l'oncle Sol de votre nom, de votre patronyme Ben ?
Bah écoutez, c'était en fait assez lié à ma période 60s et 70s,
ouais.
Au fait que je faisais de la soul et j'étais fan de cette musique un peu revival. Mmh. Et puis c'est vrai que j'ai eu le temps de muter, de faire différents albums, explorer quand même bien la soul, mais maintenant j'en suis sorti pour faire un album plutôt R&B et New Soul.
Ouais, juste pour info, je l'ai dit aux auditeurs, auditrices, quand vous cherchez votre album, sur Apple Music, vous êtes toujours référencé sous Ben L'Oncle Soul. Donc tapez Ben L'Oncle Soul, vous allez le trouver, et sur l'album, évidemment, vous vous appelez Ben. Comment vous avez travaillé sur cet album? Qui l'a composé? Je vous pose la question parce que cet album a une histoire. Vous avez lancé un appel sur les réseaux sociaux, racontez.
Oui, c'est ça. En fait, plutôt que de partir de la page blanche, j'ai demandé... sur mes réseaux sociaux, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de musiciens qui devaient me suivre. Et donc, je leur ai demandé... ça, c'était avant le coronavirus. Hein.
Ouais, bien sûr.
c'est une idée qui aurait pu arriver aujourd'hui. Du coup, je leur ai demandé s'ils avaient de la musique à me proposer pour mon nouvel album. Et donc, j'ai reçu plusieurs centaines de morceaux par email.
Ouais.
J'ai filtré sur 3 jours, j'ai écouté 300 morceaux et j'en ai gardé une trentaine pour commencer à travailler l'album. Et au final, j'en ai gardé 11 que j'ai préparé. Voilà.
Vous avez écouté à l'aveugle ou vous avez écouté en sachant qui faisait quoi?
Non, justement, j'ai complètement écouté à l'aveugle. Donc il y a des morceaux de partout, du monde entier. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi quand même des morceaux de gens que je connais, de musiciens que je connaissais.
Ouais.
Donc ça, c'est rigolo. Mais effectivement, c'était complètement à l'aveugle.
Et pardonnez-moi, me donnez pas les noms, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des stars qui ont été recalées?
Ah oui, il y en a.
Mince,
carrément.
Des gens très connus et bim, ils n'ont pas passé la rampe.
C'est ça, exactement. Ouais. Des auteurs, compositeurs qui sont assez connus. Après, c'est vrai que ce qui m'a intéressé là, c'était le beatmaking, c'est-à-dire tous les gens qui étaient vraiment assez forts en production musicale aussi.
Ouais, on a entendu le beatmaker, c'est quelqu'un qui fait le rythme, l'ambiance. On a entendu le morceau avec Ayam, dis donc, ça envoie. Hein. Il y a plein de gens très différents.
C'est Thomas Broussard. Ouais.
Ouais. Si je suis bien informé, il y a un gars qui vient de la scène électronique de Toronto, il s'appelle Twig. Il y a un batteur bordelais, Bastien Cabzon. Quelqu'un qui vient d'un groupe funk parisien, groupe folk, pardon, pas funk. Et puis une histoire particulière avec Ayam, dont on vient d'entendre le titre en entier, c'est All My Life. Ayam, c'est la dernière pièce du puzzle de votre album, c'est ça?
Oui, en fait, c'est un featuring. Il existera aussi en version solo, mais je les ai croisés à la maison de disques quand j'ai présenté mon disque.
Ouais.
Et on est tous les deux chez Universal, enfin le groupe et moi-même. Et en fait, on se connaît depuis 10 ans, on n'avait pas eu vraiment l'occasion de faire quelque chose ensemble. On s'est dit, franchement, c'est le moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils sont venus en collaboration sur l'album, c'est super sympa.
Ouais, d'accord. Mais si le morceau qu'ils avaient proposé était mauvais, ou c'était un morceau déjà à vous sur lequel vous avez inclus Ayam, ou est-ce que c'était un morceau à eux?
Non, non, c'était un morceau à moi. Et puis ils sont venus en fait se poser dessus, quoi.
Ouais, parce que vous savez, si quand vous demandez, parfois on peut se fâcher avec ses copains. Si vous demandez à vos copains de faire la cuisine chez vous et que le copain c'est Jérôme Anthony, on peut être déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on est déçu par des potes.
Quand c'est Ayam, on n'est jamais déçu.
Il y a également le titre Next to You, c'est avec Yuna, c'est ça? Qui est-elle?
Ouais, c'est une artiste d'origine malaisienne américaine qui vient de Los Angeles. Et qu'on a découvert avec Usher il y a quelques années. Elle a fait un super duo. Et c'est pareil, elle est dans ma maison de disques. C'était l'occasion de collaborer avec les artistes R&B du moment. Parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague de R&B qui est en train d'arriver. Donc c'est sympa d'avoir... De trouver des collaborateurs un petit peu partout dans le monde et surtout aux États-Unis, c'est vrai.
Je parlais de Twig qui a produit ce morceau, si je suis bien informé. Ben et Yuna, Next to You, ça donne ça. The only thing I know, I just wanna stay next to you. Oh. Next to you. Right next to you. Right next to you, ça veut dire juste à côté de toi. C'est pas une histoire d'amour entre vous deux avec Yuna, c'est dédié à votre fille, c'est ça?
Ouais, le morceau a été écrit pour ma fille à la base.
Ouais.
Et c'est devenu un duo, en fait, c'est assez ouvert comme parole, c'est juste une chanson d'amour. Donc on a ouvert. Yuna n'a pas encore d'enfant.
D'accord. Alors il y a aussi Call Me, je veux dire pourquoi je vous pose la question, enregistré avec un Jamaïcain. Qui est-il? Moi je ne le connaissais pas, ce gars.
Ouais, Samori Hai, en fait, il fait partie comme chronique, c'est un petit peu de la nouvelle scène reggae.
Ouais.
Ben c'est super parce que justement, dans leur reggae, c'est très métissé, c'est très mélangé.
Mmh.
C'est assez propre à la, au temps qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est, je pense que dans tous les styles, il y a des espèces de réinventions, de nouvelles énergies qui rentrent. Et dans le reggae, le R&B commence à rentrer. Donc là aussi, je voulais être présent. Pour être connecté un petit peu à mon temps et à ce qui se passe un peu dans le monde. Quoi.
Déjà,
c'est un artiste que j'adore.
Déjà, Ben, vous êtes très mélangé, mais si vous jouez avec un Jamaïcain qui lui-même est très mélangé, ça s'appelle Call Me et ça donne ça.
Yeah, she does call me that you will never be the same. But no, I always keep the flame for you. Cause I will never know if you find. You will never know love like mine. I will never see all the signs. You will never be left behind.
Si je puis me permettre, c'est du reggae, c'est le Rastaman, mais en fin de soirée. C'est très lazy comme tempo.
Exactement, c'est très lent.
Ouais.
Ça correspond plus du tout au Rocksteady Ska, les morceaux qu'on avait connus un petit peu avec, avec Bob Marley. On est vraiment sur des choses qui sont beaucoup plus low tempo, low rider, on va dire.
Exactement. Il y avait des concerts prévus, tout était annulé.
Bah oui, là c'était, c'était obligatoire, c'est pour tout le monde pareil,
mais
je
ouais.
pense.
Je vais le dire quand même, je vais le dire, en plus de la France, vous deviez être le 14 avril à Zurich, le 18 à Düsseldorf en Allemagne, le 19 à Berlin, ouais. le 20 à Hambourg, le 28 à Utrecht en Hollande, le 29 à Londres. Ce que prouve cette liste, c'est que vous êtes très connu en dehors des frontières françaises. Est-ce qu'il y a une explication à ça, en dehors de votre talent ?
Bah écoutez, c'est vrai que nous, depuis le premier album, on joue beaucoup en France, mais on privilégie aussi pas mal ouais. l'étranger. On est, y a, en fait, cette musique-là, c'est-à-dire la musique noire afro-américaine, elle plaît partout en Europe déjà, ouais. beaucoup en Hollande, beaucoup en Allemagne. Et puis, c'est vrai qu'avec le premier disque, on a eu la chance de pouvoir aller jouer au Japon. On n'a pas été encore au Brésil, mais on a énormément de fans là-bas. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de qui peut vraiment faire voyager.
Exactement, quoi. Et ça nous réjouit. Et merci d'avoir sorti votre disque là maintenant. Il s'appelle Addicted to You. Je veux dire par là, merci de ne pas avoir repoussé la sortie. Merci Ben, Addicted to You. La maison de disque, on l'a pas dite ?
Ouais, c'est Blue Note.
Ouais, c'est Blue Note.
C'est Universal.
Merci d'avoir été avec nous. Blue Note, immense label de jazz, sinon peut-être le meilleur label de jazz. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes chez vous, vous êtes en train de ranger des trucs sur votre table et vous nous parlez de jeux vidéo depuis la rentrée sur Europe 1. Et là, faut le dire, c'est un peu votre heure de gloire, Clément, non ?
Bah, je vous le confirme, en ce moment, il n'y a qu'à regarder un peu sur les réseaux sociaux. Tout le monde se découvre une âme de gamer à cause du confinement. Tout le monde joue aux jeux vidéo.
Alors, le jeu vidéo cartonne. Quels sont les jeux qui s'en sortent, non pas le mieux, mais le super mieux ?
Eh bien, vous allez voir, c'est assez intéressant. Le jeu le plus vendu la semaine dernière, c'est Animal Crossing, celui dont je vous parlais ouais. jeudi. C'est ce simulateur de vie extrêmement mignon qui vous emmène sur une île paradisiaque. Eh bien, il s'est hissé en tête des ventes dès sa sortie. C'est pas étonnant, les gens ont envie de s'évader et c'est le jeu parfait. Par contre, et c'est plus surprenant, derrière, on retrouve trois jeux plus anciens, voire très anciens. Est-ce que ça vous parle ?
Ça, on dirait un Mario Kart énervé.
C'est absolument Mario Kart, c'est celui sur Switch, il est sorti en 2017, hein, 3 ans déjà dans le jeu vidéo, c'est une éternité, mais ouais. il est le deuxième jeu le plus vendu en ce moment, preuve qu'il passionne toujours les joueurs. Et ensuite on retrouve les deux mastodontes qui dominent les ventes chaque année, FIFA et Call of Duty, eux, mais ils sont sortis tous les deux à la rentrée, ça fait déjà plus de 6 mois, c'est aussi très long.
Et alors comment vous expliquez le fait qu'ils se vendent aussi bien maintenant, Clément ?
Eh bien, ces trois jeux, ils ont un point commun. Au-delà d'être des jeux qui, de toute manière, sont très populaires, on peut y jouer à plusieurs, que ce soit chez soi avec ses proches ou bien en ligne avec des joueurs du monde entier. Donc forcément, quand on cherche un peu de compagnie en plein confinement, on en revient à ces jeux qu'on peut partager avec ceux qu'on aime ou ceux qu'on apprécie. Ou alors, pour se lancer des défis, on a moins l'impression d'être enfermé avec soi-même que quand on joue à des jeux d'aventure solo comme Assassin's Creed, par exemple, ou les Tomb Raider, ce genre de choses.
Et alors, votre conseil, Clément, est-ce que vous nous recommandez d'y plonger ou d'y replonger ?
Alors oui, Et oui, Mario Kart, FIFA et Call of Duty, ce sont trois jeux très sympas. Moi-même, je joue à Mario Kart une fois tous les deux jours en ce moment. Voilà, je me suis replongé dedans. Mais je vous recommande surtout, moi, FIFA en ce moment, hein, tout simplement.
Ah ouais.
Car le tennisman Nicolas Mahut, qu'on connaît bien, organise cette semaine un tournoi virtuel sur le jeu de foot. Hein. Il n'y a pas de sport, donc il y a du e-sport. Tout le monde peut s'inscrire. Il y aura quelques sportifs de renom au casting, hein, comme Benoît Paire, Luc Capouille, Kevin Gamero, hein, le footballeur qui joue en Espagne aujourd'hui, Thomas Meunier, hein, le footballeur de Paris, d'autres anciens aussi joueurs qui vont être là. C'est un événement caritatif. Pour s'inscrire, vous allez sur le site Glory4, comme le chiffre 4 en anglais, ouais. Gamers, et vous donnez la somme de votre choix. C'est vraiment pardon, vous qui décidez ce que vous donnez, et les dons seront reversés aux hôpitaux de Paris. Bref, bah c'est le moment ou jamais de vous remettre à FIFA pour la bonne cause.
Mais il y a combien de joueurs? On a combien de chances de tomber sur Thomas Meunier ou Luc Capouille?
Alors en fait, il y aura un tournoi pour les amateurs.
Ouais.
Tout le monde peut s'inscrire. Il y a quatre dates. Ça commence jeudi. Tout le monde peut s'inscrire. Vous jouez votre tournoi avec tout le monde. Et il y aura de leur côté un tournoi pour les stars. Et ouais. À la fin, le vainqueur du tournoi des amateurs rencontrera le vainqueur du tournoi des stars.
Ah, magnifique. Voilà pour les classiques. Et si on préfère jouer à un jeu original? Une idée?
Oui, parce qu'il n'y a pas que FIFA ou Call of Duty ou Mario Kart dans la vie. Hein. Vous vous souvenez peut-être, il y a deux semaines, je vous parlais d'un jeu très original, mais un peu cynique. C'était Plague Inc.,
ah
un
oui
jeu dans lequel il fallait créer un virus et le propager sur Terre.
Ouais, la super
et
idée,
bien,
ouais.
Pour changer, j'avais envie d'un jeu qui donne de l'espoir. Cette fois, on va donc combattre un virus dans le jeu pandémique avec un C à la fin, comme le mot anglais. On peut y jouer sur son smartphone, sur ordinateur ou sur Xbox One. Et c'est doublement original puisque c'est l'adaptation en jeu vidéo d'un jeu de société. Le jeu Pandémie, mélange de stratégie et de jeu de cartes.
Jeu vidéo donc adapté d'un jeu de société, mais concrètement, comment on y joue alors?
Eh bien, Pandémique se joue comme un jeu de plateau sur une carte du monde. Hein, des virus menacent la population. Pour contrer leur propagation, on doit utiliser quatre personnages au choix, parmi lesquels il y a un médecin, une chercheuse, un ingénieur du génie civil, un spécialiste des crises sanitaires, une scientifique. Voilà, chacun a des talents particuliers et il faut les combiner pour ralentir la propagation du virus. On les déplace chacun leur tour de ville en ville. On effectue des actions avec eux, par exemple construire des centres de recherche pour accélérer la recherche, soigner les malades, pour ralentir la propagation, transporter un autre personnage plus rapidement pour qu'il intervienne dans une ville où c'est un peu plus tendu comme situation. Et pour l'emporter, eh bien, il faut accumuler des cartes d'une certaine couleur, en l'occurrence, pour trouver un vaccin pour chacun des virus qui menacent la planète.
Et alors Clément, votre verdict, ça vous a plu ?
Alors pour être honnête, moi au début j'ai eu du mal avec Pandémie, car je voulais vraiment d'avoir un jeu très positif, un jeu qui permette d'avoir un peu d'espoir en ce moment pour se dire qu'on va vaincre ce coronavirus. Là, le jeu il est vraiment technique quand même, il y a beaucoup de choses à assimiler, on perd pas mal les premières parties, ça peut être un peu frustrant, mais c'est aussi le cas de beaucoup de jeux vidéo. Mais voilà, petit à petit je me suis pris au jeu, notamment parce qu'il y a de très bons tutoriels, hein. Vous savez, ces guides qui vous permettent d'apprendre comment on joue. Ben là ils sont vraiment très bien faits, très complets, vous jouez deux parties entières avec de l'aide, donc j'ai pu commencer à apprendre les mécaniques et j'ai vraiment fini par m'amuser, on a envie de battre ce virus. Et puis moi, j'y ai joué seul chez moi, dans mon petit appartement. Mais ce qui est sympa dans ce jeu, Pandémique, c'est qu'on peut y jouer à plusieurs aussi. Ouais. Chacun prend un personnage et vous devez coopérer les uns avec les autres. Et comme souvent, les jeux vidéo, c'est quand même beaucoup mieux à plusieurs.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. On va aller au cinéma maintenant avec Mathieu Charrier, le meilleur des films à rattraper en VOD. Mais d'abord, musique, une nouveauté, François Henri, Gibraltar.
Sa mort ce soir. La mère ivresse de ce cauchemar me fait vivre dans le brouillard. À la lumière de mes ma vie s'éclaire soudain en noir. Et je fuis à Gibraltar. Oh.
purgatoire. L'exil caresse mon désespoir. À Gibraltar, à Gibraltar, à Gibraltar, à Gibraltar.
C'était Gibraltar sur Europe 1. Et comme tous les mardis pendant ce confinement, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous conseillez des films à voir ou à revoir en VOD, vidéo à la demande. Vous vouliez commencer aujourd'hui par une comédie qu'on peut regarder en famille. Ça s'appelle Roxane.
Oui, qui est aussi le nom d'une poule. Je vous explique. Dans ce film, Guillaume de Tonquédec et Raymond, éleveur de poules. Pondeuse, vous vous rappelez.
Génial.
Pondeuse bio en Bretagne, il a deux passions, les poules donc, et la grande littérature que Raymond lit et relit, tous les grands classiques. Alors parfois même, il va les lire à haute voix à ses poules pour les féliciter d'avoir bien pondu ou pour les motiver. Il y a du Cyrano de Bergerac notamment, ça n'a jamais fait de mal à personne, surtout pas une poule. Alors le jour où il apprend que la coopérative ne lui achètera plus ses œufs, il décide de rejouer ses classiques avec Roxane, sa poule préférée, de se filmer et de mettre tout ça, de mettre les vidéos sur internet pour créer le buzz et sensibiliser sur son cas. Alors évidemment c'est parti pour des vidéos d'anthologie. Va-t-il sauver sa ferme grâce à ça? C'est tout le suspense du film, qui est une comédie humble, ça ne se prend pas au sérieux. La jeune femme qui la réalise, elle s'appelle Mélanie Auffray, c'est son premier film et elle sait de quoi elle parle puisqu'elle est elle-même petite fille d'agriculteur. Elle s'est inspirée d'une histoire vraie pour écrire le scénario qui a tout de suite conquis Guillaume de Tonquédec.
Ça va réveiller les foudres de sa famille et de ses amis et il va quand même continuer à se battre. Donc c'est une histoire d'amour au pluriel, amour pour la terre, amour pour les mots, amour pour sa femme qu'il va falloir reconquérir et amour aussi pour son exploitation, ses enfants et la valeur de la transmission. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans ce film.
Voilà, Roxane. C'est donc un joli film qui permet aussi de comprendre la réalité du quotidien des éleveurs du pays, leur attachement à leur terre, à leurs bêtes. C'est rare de voir des comédies rurales aussi réussies qui ne se moquent pas, qui ne caricaturent pas. Donc vraiment, vous pouvez regarder ça en famille ce soir en VOD ou en DVD. Ça s'appelle donc Roxane.
Puis Mathieu, dans un tout autre style, vous vouliez nous conseiller le film Piranhas, adapté d'un livre de Roberto Saviano.
Oui, vous savez, ces journalistes italiens hyper engagés dans la lutte contre la mafia qui avaient notamment fait Gomorra, Grand Prix du Festival de Cannes en 2008. Alors Piranhas, ça raconte comment de jeunes adolescents vont basculer dans le crime organisé. Ils ont entre 12 et 15 ans pour les plus jeunes. C'est notamment le leader qui s'appelle Nicolas. Ils ont encore de l'acné pour certains. Ils ont toujours besoin du bisou de leur maman. Mais pourtant, ils vont devenir ce qu'on appelle les baby gangs. Alors Nicolas, au début du film, il assiste impuissant aux raquettes organisées que subissent les commerçants du quartier, notamment sa mère qui tient un petit pressing. Et un jour, profitant de l'arrestation de certains caïds locaux, lui et ses copains vont prendre le pouvoir, littéralement. C'est-à-dire qu'ils apprennent à tirer, ils organisent des descentes punitives sur leur scooter rutilant jusqu'à leur tout premier meurtre. Évidemment, le début d'une descente aux enfers. Alors Piranha, c'est une fiction, mais basée sur des faits réels. C'est-à-dire que le film a été tourné d'ailleurs dans les rues de Naples. Le réalisateur Claudio Giovanesi a casté 4000 jeunes Italiens pour sélectionner cette bande. Et il s'est donc appuyé sur le récit du journaliste Roberto Saviano. Écoutez-le.
La vecchia generazione criminale napoletana
è tutta la vieille génération de criminels à Naples est soit en prison, soit en cavale. Aujourd'hui, elle a été remplacée par des enfants. Pour la première fois dans l'histoire, les enfants ont pris le pouvoir. Imaginez des gamins de 12, 13, 14 ans qui contrôlent des zones où le trafic de drogue génère plus d'un million d'euros par an. Ils commettent des meurtres, mais rentrent dormir chez leurs parents. Ces jeunes sont prêts à mourir jeunes, mais à gagner beaucoup.
Disposti a vivere poco per ottenere molto.
Alors je vais être honnête avec vous, c'est pas du niveau de Gomorra, c'est beaucoup moins subtil, c'est un procédé narratif assez classique, on va suivre l'ascension du chef de gang, etc. Mais il y a quand même des images qui marquent, notamment lorsque tous ces gamins déboulent dans les petites rues du centre-ville sur leur scooter pour une opération punitive. Voilà, c'est donc un film documenté, quasi documentaire, utile pour comprendre où en est la Camorra aujourd'hui, ça s'appelle donc Piranhas.
Et puis encore un autre genre, on termine avec un film d'horreur sorti l'été dernier, ça s'appelle Crawl. C'est réalisé par un Français spécialiste de l'horreur à Hollywood, c'est Alexandre Aja.
Exactement, alors je vous plante le décor. Un ouragan de catégorie 5 menace la Floride, les habitants doivent évacuer. Problème, la jeune Allée n'a plus de nouvelles de son père qui vit dans une maison en plein cœur de l'œil du cyclone, juste à côté d'un lac. Alors elle décide, malgré les interdictions, d'aller voir comment il va, d'aller le rechercher. Elle le retrouve, blessé, dans la cave inondée de la maison, mais Ils ne sont pas seuls. Des petits alligators ont quitté le lac et s'attaquent affamés aux humains. Tous les éléments d'un bon film survival sont rassemblés. Un lieu clos, étouffant, l'eau qui monte, des monstres qui menacent. Un scénario plausible d'ailleurs, quand on sait que les requins font 300 morts par an dans le monde et les alligators, plus de 1000. Écoutez Alexandre Aja, le réalisateur.
C'est arrivé à Queensland, en Australie, avec 25 000 maisons inondées et des crocodiles dans l'eau partout. C'est arrivé au Brésil, dans les favelas de Rio, inondées avec les caïmans. C'est des choses qui, malheureusement, sont de plus en plus communes.
Voilà, petite dimension écologique en toile de fond du film. Il faut surtout le voir pour le plaisir de passer une heure et demie les ongles enfoncés dans la couloir de votre canapé. Et en sortant, je peux vous dire que vous méfierez un tout petit peu plus de l'eau et des créatures qui y vivent. Ça s'appelle donc Crawl.
On a bien besoin de ça. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Merci à tous. Culture Média, c'est terminé.